because the more people there are there, the less chance there is of police and other institutional violence. So stay tuned, keep it locked, and show up when you can. And thanks, everyone. That's us signing off.
And there's also no Wi-Fi, but we're back. We're better than ever. And yeah, I'm really excited to get on with this broadcast. So my goal of today is to explore how music and poetry have intersected and evolved together over time, specifically as a tool of resistance in Palestine. And a little bit of background about what I'm going to be doing and what I'm aiming to accomplish in this hour that we have together. I'm a student at McGill, and this semester I'm in a wonderful course called Poetics and Politics in Arabic Literature with Professor Michelle Hartman, shout out. And it's specifically on Gaza. It's just been such a transformative experience, and I've definitely been enriched in so many ways. For one, I feel like I'm not scared of poetry anymore. I'm definitely still a little scared of Shakespeare, but, you know, in the greater context of things, I think being able to hear the stories of people in a context that I feel is so important to grasp really changed the way I view literature and the creation of it. We cannot forget Palestine or Gaza, and the more that we listen and read and spread the lives, the more Gaza lives on. I feel super blessed with the opportunity to study and speak about Palestine in an academic setting. In this class, we read poetry from Gaza specifically, both of the past and
good evening, everyone. You are listening to What's Up With Work Lately. Hope y'all had a great weekend. We got a great show for you. We got two members of the Chantier Economique Social joining us today, and they've got interesting conversations, and hope y'all enjoy. Thank you.
Welcome back to CKUT. This is What's Up With Work Lately. My name is Mariam. I am behind the board with Emile joining us behind the mic.
What's up, everybody?
Donc, nous sommes rejoints ici aujourd'hui de deux nouvelles amies, de nouvelles collègues que nous avons rencontrées à la fin du mois dernier. Et j'adorerais que vous vous présentiez aussi.
Yeah, hello, my name is Sophie. Thank you so much for having us. I recently graduated from sustainability and I'm about to start my master's in public administration and global affairs. And I'm very passionate about social economics and climate change. Thank you so much for having us.
Thank you so much, Sophie.
Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Alexandrine Beauvais-Lamoureux. J'ai fait un bac en relations internationales et droit international et je vais commencer une maîtrise en santé publique dans un intérêt de recherche avec la sécurité publique et les déterminants sociaux à l'automne. Et moi aussi, vraiment super heureuse d'être ici aujourd'hui.
We are privileged to have y'all join us.
Merci beaucoup d'être là. Et merci d'être venu en personne aussi, parce qu'on a fait des entretiens par téléphone, mais c'est toujours vraiment agréable d'être dans l'espace avec vous ici depuis Montréal. Donc merci énormément. Je sais que vous avez une réunion à 7 heures. quelle est votre organisation d'ailleurs?
Donc nous, on représente l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale, which translates to
the youth.
Wing?
The youth wing, yeah, the wing of the social economics group in Quebec.
Right. Exactement.
Ben, on est ravis d'en apprendre plus.
Donc, pour commencer, pouvez-vous partager avec nos auditeurs votre parcours professionnel en lien avec l'économie sociale et comment vous êtes arrivé à être membre de la jeunesse du chantier de l'économie sociale?
Oui, bien sûr. Mais pour ma part, si je peux commencer, moi, je suis entrepreneur pour une entreprise d'économie sociale qui œuvre dans la prévention des violences sexuelles en milieu festif, donc qui s'appelle Saine et Sauve. On accompagne des organisateurs d'événements festifs, que ce soit des festivals, des initiations étudiantes, des bars, etc., pour élaborer des stratégies de prévention. Puis, c'était super important pour nous d'être un organisme à but non lucratif afin que tous les profits qui soient générés par nos activités soient réinvestis dans la mission. Et j'ai intégré l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale quand je me suis présentée au poste de coordonnatrice politique, qui est un nouveau comité qui a été formé au début de l'année.
Super beau parcours. Pour ma part, c'est plutôt dans le domaine de l'alimentaire et de la justice sociale qui m'a poussée vers l'économie sociale. Donc, j'ai toujours été très impliquée avec les commerces équitables au sein d'Oxfam Québec, mais également au sein de la recherche plutôt académique avec des Premières Nations. Et puis, ça m'a amenée à devenir chercheure pour un nouveau groupe de transition écologique sur la transparence des chaînes d'approvisionnement en alimentaire à Montréal et au Québec. Et puis, finalement, j'ai rédigé ma thèse de bac sur la décarbonisation et la transparence des chaînes alimentaires au Canada. Et c'est comme ça qu'Alexandrine, qu'on se connaissait de plusieurs événements, m'a recrutée au sein de la jeunesse du chantier.
C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.
Oui, donc tu avais des parcours vraiment intéressants. Et donc, tu as l'air beaucoup expérimenté avec l'économie sociale. La prochaine question. Y a-t-il eu un moment particulier dans votre parcours qui a été déterminant et qui a renforcé votre passion pour le travail que vous faites aujourd'hui?
Moi, si je peux me permettre, je pense que ma prise de conscience de l'importance de l'économie sociale s'est vraiment fait à cause de la crise du logement. Donc, the housing crisis, the fact that, like, one of the main reasons why there is a higher price right now on the markets is because there is, like, not only no types of regulations, but the price are set because the money incentives created by the investors. And we know that our generation is the one where, like, we have the knife on our throat. I don't know if that expression translates.
It works.
Yes. Yeah. Donc, tu sais, on sait que la coupure se fait exactement à notre âge entre les gens qui vont être capables de se payer une maison et ceux qui, malheureusement, n'ont pas grandi dans une économie qui leur permette de le faire. Et à mon sens, une partie de la solution réside vraiment dans le fait de faire une plus grande place à l'économie sociale sur le marché de l'habitation.
Pour ma part, c'est un parcours un peu différent. J'ai beaucoup fait d'opéra quand j'étais plus jeune et puis ça m'a amenée à faire des tournées partout au monde. Et puis, c'est en revenant de ces tournées-là que j'ai réalisé que certains pays géraient certains enjeux sociaux communautaires tels que le recyclage ou bien l'action citoyenne de façon extrêmement différente par rapport au Québec. Puis c'est ça qui m'a permis de me mobiliser un peu plus une fois retournée au Québec et à Montréal. Et puis, c'est en étudiant le développement durable que j'ai découvert vraiment les trois sphères de l'interdisciplinarité des polycrises, soit l'environnement, la communauté ainsi que l'économie. Puis je pense pas qu'on est capable d'adresser aucun problème si on n'adresse pas les trois sphères. Ce serait complètement myopique comme point de vue. Et puis, c'est en découvrant l'économie sociale que l'économie sociale était également basée sur ces trois piliers-là du développement durable que j'ai commencé à plutôt me lancer vers cet angle-là.
Donc, tu as parlé sur la crise du logement, mais on a le Tobago Flats. Myriam, tu veux parler un peu de Tobago Flats, une initiative
oui,
de Youthful Cities?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous aussi, on s'est rendu compte, bien sûr, que la crise de l'immobilier, c'est vraiment peut-être la crise la plus touchante, dans le sens où c'est vraiment notre habitation qui est en jeu, qui est mise en question. Et il y a un projet Youthful Cities qu'on a lancé il y a un mois peut-être, qui s'appelle le Toboggan Flats. Donc ça va être piloté depuis Toronto, puisque le climat est un peu plus abordable. Enfin non, les apparts sont moins abordables, mais le climat en tant que tel n'a pas eu les nouvelles récentes montréalaises qu'on a vues avec les loyers, les changements de bail et tout ça. Donc on pilote ça depuis Toronto. Et c'est de transformer de l'espace commercial inoccupé dans des habitations, des logements plus communautaires. Ça va être pour des jeunes spécifiquement, un peu comme des dorms, mais un peu plus communautaire, anarchiste.
Auberge de jeunesse, voilà. Un petit peu, j'ai l'impression.
Un petit peu auberge de jeunesse, exactement. Mais c'est un tout nouveau projet, donc on ne va pas encore, frimer sans avoir rien accompli. Mais c'est effectivement une initiative. Parce que toute notre recherche, nous sommes une entreprise de recherche et d'innovation, et vraiment, l'immobilier est très, très inquiétant en ce moment. Et je trouve aussi que, juste pour... je m'inspire un peu de vos réponses, les immobiliers même, enfin, les maisons même, ne sont pas forcément accessibles à des familles un peu plus nouvellement formées, c'est-à-dire pas tout le monde a 2,5 enfants, un mari, une femme, donc vraiment, c'est les jeunes qui sont peut-être en tant qu'indépendants ou alors en tant que... un groupe de plus de personnes qui n'a pas d'architecture accessible, tout simplement. Donc voilà, ce sont les questions à lesquelles nous réfléchissons. J'ai une autre petite question pour vous, juste par rapport à tout ça. La main-d'œuvre est de plus en plus jeune, et pourtant, les politiques semblent ne pas refléter les priorités des jeunes. Donc avez-vous quelque chose à dire là-dessus en tant qu'engagé?
Ben, je pense que ça change. Pense que c'est quelque chose... Il faut demeurer optimiste par rapport à la responsabilité sociétale d'entreprise au Québec. De plus en plus, il y a des indicateurs qui sont mis en place par le gouvernement ainsi que par plusieurs groupes non-partisans qui se mettent à mettre de l'avant les piliers du développement durable, comme je l'ai mentionné tantôt, soit l'environnement, l'économie et la société, de sorte à ce que les milieux du travail au Québec soient capables d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur les communautés, tout en faisant du profit à long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que faire ces actions-là, c'est au bénéfice de tous. Et ça se passe dans les sponsorships, ça se passe dans les commandites, ça se passe dans les espaces de collection, dans des grandes entreprises québécoises. Et que de plus en plus, les entreprises sont en train de réaliser qu'il y a des façons de merger ces affaires-là avec les intérêts des jeunes pour amener plus de main-d'œuvre au sein des entreprises, de sorte à bénéficier la communauté québécoise.
Si je peux me permettre de renchérir dans un angle pas nécessairement plus défaitiste, mais plus réaliste. On sait pertinemment qu'en ce moment, il y a une recrudescence d'intérêt pour les enjeux ESG, donc équité, enjeux sociaux et gouvernance, c'est bien ça?
Environnement,
pardon. Équité se retrouve un peu
ça, c'est
dans les trois sphères. Ah, c'est oui. Ça. Mais je pense qu'il faut rester lucide par rapport à la capacité d'impact que peut avoir ce genre de mesure. Ce que je veux dire, c'est que si ça ne percole pas dans un changement de culture d'entreprise, si tu as une seule personne qui est responsable des enjeux ESG, des enjeux EDI, et que l'entreprise dans laquelle elle se trouve n'écoute pas ses recommandations, ben, son poste, malheureusement, n'a pas l'impact qu'il pourrait avoir. Donc oui, c'est vrai que c'est un bon premier pas d'embaucher des consultants, d'essayer de faire un travail d'introspection pour prendre conscience de l'impact environnemental et social de ses activités professionnelles ou corporatives. Mais si après ça, il n'y a pas de changement en profondeur qui s'opère, je pense que c'est un peu superficiel comme initiative. Puis, notamment sur le plan d'à quel point est-ce que la jeune main-d'œuvre peut être outillée pour venir déceler la différence entre des mesures qui sont superficielles sur le plan environnemental et social et des mesures qui se transpose dans un changement profond. Sophie et moi, on a travaillé, entre autres, grâce à Youthful Cities, sur un projet qui vise à démystifier, justement, qu'est-ce qu'une mesure superficielle, qu'est-ce qu'une mesure en profondeur, pour que les jeunes aient entre leurs mains un outil de discernement entre les différents milieux de travail qui sont à leur disposition. Donc, s'ils ont deux offres d'emploi de deux employeurs différents, qu'ils soient capables de comparer laquelle est la plus en adéquation avec leurs valeurs.
Super, merci beaucoup.
Merci de parler de E-Conscience, c'est le nom de la faute.
oui, ben voilà, non, on va plugger le projet par la suite, ça c'est certain. Et je résonne énormément avec ce que vous dites, Juliette, aussi formidable que soit le consulting. Il est parfois difficile d'atteindre directement les communautés. Ça, c'est nous-mêmes, on a un très grand souci avec ça. Notre engagement autochtone, notre engagement noir, il est vraiment perturbé, quoi. Et je voulais juste... Ouais, donc, cet aspect communautaire, cet aspect de plus en plus localisé, j'ai l'impression que les gens ont remarqué que c'est comme ça que ça marche, du bottom-up, plutôt. Et puisque la confiance communautaire ou d'un groupe sensibilisé, tel que juste les jeunes, ne se construit pas du jour au lendemain, avez-vous des conseils pour gagner cette confiance au sein de votre communauté, ou je veux dire, vous-même, quand vous dites que c'est performatif, ces initiatives, ben, je suis complètement d'accord, en fait. Ouais, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Si je peux me permettre, je pense que l'esprit critique, ça passe aussi par la compréhension des outils à notre disposition pour interpréter c'est quoi les informations qui nous sont présentées. Il faut se rappeler que, malheureusement encore, dans le marché où l'offre est issue majoritairement d'entreprises à but lucratif, le but premier, et je tiens à dire, ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes, c'est juste le modèle d'affaires, mais c'est de maximiser le rendement aux actionnaires. Ça veut dire que, justement, les mesures environnementales vont toujours être réfléchies d'une manière à comment je fais pour élargir mon public, comment je fais pour agrandir mes ventes, comment je fais pour générer plus de revenus à mon entreprise. Donc, quand je parle d'esprit critique, c'est de dire, c'est pas parce que sur l'emballage, tu vois 50 % de matériaux recyclés que c'est nécessairement l'option la plus verte. Tout ça, c'est des stratégies marketing. Il y a des professionnels de psychologie commerciale qui travaillent là-dessus pour que le branding et la manière dont les produits nous sont présentés aient l'air le plus vert possible pour qu'on puisse se donner bonne conscience. Mais en pratique, c'est pas nécessairement ça. Par contre, je tiens à dire aussi que là, le fait de dire ça, ça sonne un peu justement pas alarmiste, mais un peu comme s'il n'y avait pas d'issue, genre qu'on pense faire une bonne action avec nos achats, finalement, c'est pas le cas. Ben, moi, d'emblée, la première recommandation que je ferais, ça réinvente pas la roue, mais c'est vraiment de réfléchir à comment prioriser les achats locaux. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais c'est clair que lorsque tu réduis la chaîne de production, lorsque tu connais les gens qui ont produit ce que tu consommes, c'est clair que c'est beaucoup plus facile d'avoir la vraie information sur comment ce que tu consommes a été fait que si ta seule manière d'avoir accès à ces informations-là, c'est par le biais des campagnes de communication qui ont été développées en même temps que la mise en marché du produit.
Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as mentionné. Ce sont des très belles initiatives. Je pense d'ailleurs que c'est important de mentionner que les modèles d'affaires en ce moment qui mènent place au greenwashing ou à l'éco-blanchiment, c'est qu'ils sont basés sur le triple bottom line. Puis le triple bottom line pour les entreprises, c'est lorsque les valeurs sont basées sur la planète, le people et le profit. Puis ça, c'est extrêmement problématique parce que quand on tient seulement en compte le people, planet, profit, it takes only into account le short-term economic profit. Donc, si on est capable de se mobiliser en tant que jeune main-d'œuvre pour demander aux employeurs de changer le mot profit pour la prospérité, que ce soit la prospérité économique, bien à ce point-là, ça va tenir en compte la prospérité environnementale ainsi que la prospérité sociale qui vient d'emblée avec la prospérité économique. C'est juste un petit changement de mindset que la jeune main-d'œuvre se doit de pousser vers les employeurs. Mais ça ne peut pas seulement être sur le dos des jeunes. Parce que, comme Alex l'a mentionné plus tôt, au sein des entreprises, dans les efforts ESG, c'est souvent une personne. Puis, en ce moment, on est dans un environnement de polycrise. On n'est pas capable de dépendre d'une seule personne et de porter cette personne-là à un burn-out. Il faut supporter la communauté ESG, puis il faut supporter les efforts ESG de façon à rendre ça la nouvelle norme.
Oui, merci, parce qu'on a besoin de faire la transition pour voir un plus social monitorable benefit.
Absolument.
Parce que même avec les gouvernements, on voit que il y a des différentes estimes de la prix de pollution, parce qu'entre les différentes administrations, il y a quelques gouvernements qui pensent que la prix de pollution est plus haut que les autres. Donc je pense que, comme tu dis, il y a besoin d'un plus complet, plus collectif transformation.
Yeah, and if you don't mind, I would just like to say that I think it's great that corporations want to speak up, they want to be more transparent, but that does also lead to a little bit of greenwashing through eco-labeling. Mm-hmm. And I really don't believe that anybody has the mindset of, we want to greenwash. I think greenwashing is sadly an externality of the corporate culture. And it's through the labeling and through the transparency that we can avoid greenwashing issues. So instead of adopting the publish or perish mindset of we need to market as much as we can, then we can avoid the greenwashing efforts.
Mm-hmm. It's like a microaggression, but on the corporate scale.
Well, exactly, but for the planet.
Non, vraiment,
for everybody.
Oui, absolument. Et je peux vous dire, j'ai vécu 2 ans au Japon et vraiment... Les SDG sont partout. Le branding, il est impeccable. Mm-hmm. Mais après, c'est presque une ironie parce qu'ils ne savent pas forcément l'acronyme, la définition de l'acronyme. Et on achète 2 bouteilles d'eau avec 2 sacs en plastique. Je veux dire, c'est vraiment un peu l'hypocrisie constante corporative puisque justement, on regarde toujours la grande échelle et non pas la toute petite, la locale. Mm-hmm. Oui.
Mais là-dessus, je pense aussi que... Tout à l'heure, on mentionnait que it was important to be critical, like, of corporate branding and everything, mm-hmm. but we also need to be critical with, je sais pas comment dire en anglais, les politiques publiques, public policies,
mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
Le nom de ta maîtrise.
Ouais.
Mais dans la mesure où, moi, à titre personnel, mm-hmm. Un des nouveaux mots qui gagne beaucoup en popularité mm-hmm. dans l'espace public, envers lequel je suis très critique, c'est la décarbonisation.
Ah, oui.
Ça, je pense que c'est un exemple type d'une mesure que si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, ça sonne comme une bonne idée. Mm-hmm. Mais en pratique, si tu déverses des milliers de litres de pétrole dans l'océan, c'est pas en plantant 3 arbres que tu viens créer un jeu à somme nulle en équivalent ton impact environnemental. C'est pas des mathématiques simples comme ça. Puis malheureusement, il y a certaines formations partisanes, parfois certains courants politiques qui essaient de présenter ça comme étant la nouvelle solution. Mais au contraire, il faut être très, très, très critique.
Absolument.
Merci.
Prenons peut-être une petite pause musicale et revenons tout de suite. Donc merci Sophie et merci Alexandrie. On vous revient plutôt sur 90.3.
Well, welcome back to What's Up With Work Lately. Hope you enjoyed the last songs we played, and we're back with our two wonderful guests. And la prochaine question, en tant que jeune engagé dans le domaine social Montréal, quelles sont vos aspirations et visions pour les jeunes de votre ville dans vos domaines respectifs?
Veux-tu commencer? Tu sembles être très engagée dans le domaine communautaire des jeunes.
Ben oui, bien sûr. Donc, moi, pour ma part, comme je mentionnais, je m'intéresse beaucoup aux enjeux de santé et de sécurité publique. Puis, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qu'on voit déjà progressivement arriver. Donc, ça va être un petit aspect positif de notre passage ici. Mais les jeunes ont beaucoup plus une volonté de comprendre les grands défis de notre époque dans un angle interdisciplinaire. Donc, les gens ne se contentent plus de devenir des experts dans une seule perspective d'un grand enjeu de leur époque. Si je prends par exemple la crise du logement, ils ne se contentent plus de dire « Ok, moi je comprends parfaitement l'aspect juridique ». Ils ont la curiosité de vouloir se familiariser avec l'aspect social, économique, politique, etc. Puis je pense que c'est quelque chose d'inspirant, puis que j'espère qu'il va se transposer dans le milieu du travail aussi au fur et à mesure que les jeunes vont venir intégrer différentes entreprises, fonctions publiques, etc. Et puis par la force des choses, on va prendre conscience que le travail et les réflexions en silo ou les affirmations du genre « Ah, ben toutes choses étant égales par ailleurs, je vais prendre ceci comme vérité », en application, ça a rarement l'effet escompté. Donc, mon aspiration, c'est qu'on se permette de réfléchir les enjeux qu'on traverse dans des angles multidisciplinaires, puis qu'on ait l'écoute et peut-être, comment dire, la diligence de réaliser qu'on ne peut pas être des experts dans tout. Donc, on n'a pas le choix de collaborer puis de bâtir des équipes diversifiées pour être en mesure d'adresser les défis qu'on se fixe.
Je suis complètement d'accord avec toi, Alexandrine. Puis, je pense que si je peux en chérir sur un point, ce serait qu'on est tellement dans une ère de polarisation et de populisme dû aux algorithmes des médias sociaux. Ce qui fait que souvent, on ne fait que voir l'effet miroir, puis voir des posts qui vont renchérir notre point de vue. Fait que je pense que c'est important aussi de se laisser aller observer d'autres points de vue, de se laisser avoir des discussions avec des gens qui ont des points de vue totalement différents des nôtres, parce que c'est seulement en ayant ce genre de discussion-là qu'on va être capable de comprendre c'est quoi les vraies polycrises auxquelles on fait face. Les médias sociaux aussi, il n'y a pas que du négatif qui vient avec ça, c'est pas que le populisme qui vient avec ça, mais ça peut également créer des communautés. Il y a plusieurs communautés à Montréal en ce moment. Je parlais de transparence des chaînes alimentaires auparavant. Mais ça, il y a plusieurs communautés qui font que les jeunes se rassemblent ensemble et partagent les nouveaux endroits locaux qu'ils ont trouvés, les nouveaux endroits vegan qu'ils ont trouvés, les nouveaux endroits où les aliments sont pris de façon éco-responsable. Puis je pense que c'est en se mobilisant en tant que communauté qu'on va être capable d'aspirer à un meilleur futur pour le Québec aussi.
Quand est-ce que vous avez connu votre première déception quant à tout ça? Je veux dire, il y a peut-être un petit décalage entre l'action et le sentiment déjà. Donc, à quel moment avez-vous commencé à avoir cet esprit critique? Enfin, vraiment, à quel moment avez-vous remarqué cette performance? Ouais, voilà, cette éco-conscience un peu falsifiée.
Moi, personnellement, ça va peut-être avoir l'air d'avoir peu rapport au début, mais suivez-moi là-dedans. Je pense vraiment que mon éveil s'est fait durant mon passage à l'école secondaire. Puis, je tiens à dire, j'ai fréquenté une école secondaire privée à Montréal qui m'a apporté beaucoup, d'une part, des enseignants excessivement dévoués à qui je dois beaucoup de ma personnalité en ce moment, mais qui dit un milieu homogène et privilégié, dit aussi parfois une réticence face au changement et à la remise en question. Puis moi, je dirais que c'était vraiment dans l'application des codes d'uniforme que j'ai eu mon premier sentiment d'injustice sociale. Alors qu'il y avait peu à peu une mobilisation étudiante qui se faisait pour venir contester l'hypersexualisation que subissaient les jeunes filles à cause de la manière dont elles portaient leur uniforme, alors que tu es une jeune, tu es dans ton adolescence, ton corps change, c'est clairement pas toi qui choisis comment est-ce que ton corps change. Ce qui m'a déçue, c'est que malgré le fait que maintenant, avec du recul, je pense qu'à peu près tout le monde peut dire que si tu hypersexualises quelqu'un de 14 ans, c'est pas la personne de 14 ans le problème. À l'époque, il y avait certains élèves qui étaient contre cette remise en question-là, qui disaient non, il y a des règles pour une raison. Remettre en question les règles, c'est un manque de respect envers l'institution. Dès que tu critiques, dès que tu réfléchis, ça veut dire que tu t'opposes. Puis moi, c'est, c'est cette réaction-là de venir dire, ben, dès qu'on se permet de penser un peu plus loin que ce qu'on nous présente directement, nécessairement c'est négatif, qui m'a un peu heurtée. Je pense que au contraire, la remise en question, c'est une des plus grandes démonstrations d'amour que tu peux avoir pour une institution, pour un pays même, parce que ça prouve que tu es prêt à travailler pour l'améliorer. Puis si tu n'es pas prêt à améliorer quelque chose, est-ce que tu l'aimes vraiment?
Oui, parce que si tu aimes, tu veux voir, voir le pays ou l'institution à rendre leur plus à potentiel à haut niveau.
Ouais, exact.
De ton côté.
Ouais, ben écoute, tout ce qu'Alexandre a dit, ça résonne vraiment avec moi. Je veux dire, pour ma part, je suis aussi allée dans une école secondaire privée avec un uniforme. Par contre, c'est une école secondaire que de filles. Ah ouais. Et donc, on avait toutes le même uniforme. C'est en arrivant au cégep que j'ai vu vraiment cette hypersexualisation-là qui m'a complètement heurtée. Mais pour retourner au secondaire, pour moi, c'était vraiment, encore une fois, au milieu de l'alimentaire que ça m'a frappée. Je veux dire, on apprenait dans nos cours que pas tout le monde avait les mêmes opportunités dans la vie que nous. Tu sais, vers 12 ans, tu vois que certaines personnes au Costa Rica se font exploiter pour faire du café. Et personnellement, je comprenais juste pas pourquoi on était tous d'accord avec ça, puis qu'on acceptait ça en tant que paradigme pour notre société, et que ça prenait tout simplement un changement de paradigme. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer en commerce équitable avec Oxfam Québec, et qu'on est devenu, je pense, la deuxième école équitable au Québec. Mais merci. Mais je veux dire, je le plug pas pour ça, mais je veux dire, mon point était plutôt que c'est en faisant ces démarches-là, puis en essayant de convaincre la direction, que je voyais tellement de réticence par rapport au changement, parce que ça voulait dire qu'on allait devoir changer les chaînes d'approvisionnement, ça voulait dire qu'on allait devoir s'assurer des bonnes conditions des travailleurs, des gens qui nous amenaient les aliments puis les sources premières pour les repas qu'on consommait, ainsi que pour le chocolat, le thé, le café. Et puis, je trouvais ça juste... Je voyais quasiment comme... Je pense qu'hypocrisie, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais je veux dire, j'avais de la misère à comprendre pourquoi on nous enseignait tous ces effets-là de notre consommation dans le monde, mais que dès qu'on essayait de faire du changement, ben là, il y avait une grosse réticence par rapport au changement.
La dissonance entre la théorie qui est encouragée dans le milieu académique, le fait qu'on nous apprenne en cours à analyser les enjeux sociaux qui se passent autant à l'international qu'ici, à décortiquer le sentiment d'injustice. Absolument. Mais lorsque la population étudiante se réveille et se mobilise, là, subitement, c'est la mise en pratique le problème.
Exactement.
Merci. Donc, à la prochaine question. Depuis que vous avez commencé votre carrière, avez-vous remarqué des changements significatifs qui vont dans le sens de votre vision pour la jeunesse et l'économie sociale à Montréal?
Moi, petite histoire positive, avec mon entreprise d'économie sociale, le CNESO, ça fait maintenant 2 ans qu'on est en activité.
Félicitations.
Merci. Puis on voit vraiment que les organisations avec lesquelles on tisse des partenariats, non seulement sur le plan de la prise de conscience au sein des membres du conseil exécutif, conseil d'administration, etc. C'est quelque chose de beau à voir, mais je dirais surtout l'impact que ça a sur les participants et les participantes des festivals. Un des gros changements que j'ai vu depuis le début de ma vie professionnelle, c'est le fait que les jeunes réalisent que des bars, des festivals, des initiations étudiantes où il y a zéro mesure de prévention des violences sexuelles, c'est pas normal. Au contraire, il y a une nouvelle norme qui progressivement, on s'entend, on est loin d'être arrivé au bout du chemin, là, mais qui progressivement se forge. Puis moi, ça me rend fière de voir les jeunes avoir des plus hauts standards pour les événements qu'ils consomment. T'sais, il y a des gens qui sont venus me dire, moi maintenant, si je vois qu'il n'y a aucune mesure de prévention, je n'achète pas de billets pour les festivals. Puis je trouve que ça, c'est positif.
C'est vraiment super.
C'est vraiment très positif. Puis ça devrait absolument être la norme. Pour ma part, ça vient également avec le changement de vision, mais c'est plutôt dans le domaine de l'environnement. Je veux dire, je me rappelle pendant mon bac, lors de la course au stage, tout le monde se cherchait des stages. Tout le monde, parce que c'était des programmes coop, ou bien pendant l'été, pour te prouver, il fallait que tu ailles ton stage sur ton CV. Puis c'était vraiment la course à n'importe quelle compagnie qui veut nous engager, on y va. Alors que maintenant, une fois qu'on a gradué, je trouve qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment hallucinante au sein des jeunes. On est vraiment porté à aller vers des entreprises qui vont avoir un impact positif sur l'environnement et sur les communautés, puis qui vont le prouver pour vrai. Et je pense que c'est vraiment ce changement de mise en pratique de « Ah, je veux juste avoir un emploi » à « Je veux que mon emploi ait un effet positif sur ma communauté. » Puis je trouve ça très beau à voir aussi.
Absolument, absolument. Et c'est vraiment pas anodin de se dire « Ok, je rentre dans une entreprise sans faire de dégâts », parce que même ça, c'est une contribution nette, négatif, on peut se dire, et c'est ces systèmes brisés qu'on s'attend aux jeunes de ne pas questionner. Donc c'est vraiment très, très inspirant ce que vous dites.
Oui, c'est inspirant que les jeunes ont réveillé pour votre cause respective. Donc j'ai hâte de voir le déroulement dans la future. Donc la dernière question pour vous. Actuellement, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans vos efforts pour améliorer les conditions de vie de votre public cible? Et la deuxième partie est comment envisagez-vous de les surmonter?
Well, I can probably start with... I really do think that climate change is something that we need to address because in the past, I feel like previous generations have just simply been working in order to build capital, which is great. I don't undermine the fact that economic capital does bring a lot of improvements for communities and for the environment, but up to a certain point, it is a Kuznet curve. And so I do think that one of the main challenges that our generation must face right now is the individualistic point of view and the individualistic burden of action. So big corporations and older generations keep telling us, why are you eco-anxious? You just have to recycle or stop taking your car. Just adopt a vegan diet. And these actions individually, yes, they are great. But the thing is, in order to address this global crisis that we are in, we need to take a much more policy approach. We need governments to step forward, to put in place measures that corporations must adopt, because corporations won't do it on their own. They need the support from policies. They need the support from governments. And these policies must come from community engagement. So I would say it's a mix of a top-down and bottom-up approach, but this is a massive feedback loop and a very wicked problem, but it's through collaboration and policy that we can address climate change, not through individualistic actions.
Yeah, it's funny because with the individualistic actions, it's like they're saying buy electric vehicles, but...
Oh yeah, they're worse.
Most people can't afford electric vehicles anyway.
Well, not necessarily worse, but...
Well, up to a certain point, yeah. I mean, lithium mining is not great.
Yeah.
En attendant qu'on trouve une baguette magique pour être en mesure de recycler ces dites batteries, le statu quo n'est pas très édifiant. Moi, pour ma part, je dirais qu'un des principaux défis auxquels je suis confrontée dans mes efforts pour améliorer les conditions de vie des jeunes, ce serait l'apathie. Vraiment, l'apathie politique, le sentiment de découragement, je dirais même la crise de la santé mentale. Même parfois, chez moi, tu sais, je pense que c'est humain, c'est normal d'avoir des remises en question perpétuelles sur ce dans quoi tu investis du temps et de l'énergie, mais c'est difficile de trouver une source de motivation lorsque tu as l'impression que la mentalité de ta génération, puis les priorités qui sont en train de s'articuler autour des différentes mobilisations sociales desquelles on fait partie, ne sont pas en adéquation avec le système économique et politique qui nous a été légué par les générations avant nous. Puis c'est excessivement frustrant de vouloir changer les choses, mais de savoir aussi que si tu tentes de le faire de l'extérieur, bien, c'est comme si tu frappais avec tes poings sur un mur de briques. Il n'y a aucune chance que tu le fasses tomber. Mais en même temps, se convaincre qu'il faut que tu ouvres la porte, que tu rentres dans le bâtiment, je comprends certaines personnes qui le voient comme étant, je veux pas dire une trahison, mais difficile à composer avec leurs valeurs, un genre de dilemme interne, d'être comme je sais que le système politique et économique ne correspond pas à mes valeurs, mais je sais aussi que tenter de le changer de l'extérieur ne va pas avoir l'effet escompté. Donc, il faut que je réfléchisse à ma capacité d'action dans ma situation ici et maintenant, puis c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile.
Absolument. J'ai une citation sous les yeux là d'Hérodote. « Mieux vaut subir la moitié des maux auxquels on s'attend que de rester dans l'apathie par crainte de ce que pourrait devenir. » Donc, c'est vraiment une très bonne réponse. Yeah. It's probably better in English. C'est toutes les questions pour le soir. Merci énormément. Donc, juste pour redire, nous avions été rejoints aujourd'hui, le 29 avril, par Sophie Gaudreau et Alexandrine Beauvais-Lamoureux, qui font partie du executive team, de l'équipe
Youth Wing,
du secteur de
jeunesse. Le chantier de l'économie sociale.
C'est ça. Avez-vous des derniers mots à dire, peut-être?
Mais écoutez, si jamais les enjeux économiques, politiques et sociaux vous intéressent, que vous avez envie de rejoindre des gens qui, eux aussi, se couchent à 3 heures du matin pour réfléchir à comment imaginer un nouveau système plus fonctionnel qui pourrait permettre de garantir la santé et la sécurité publique de tous et toutes, on vous encourage à nous écrire, que ce soit sur la page Instagram de l'Aile Jeunesse du Chantier de l'économie sociale, notre page Facebook. On a aussi une adresse courriel, ailejeunesse@commercialchantier.qc.ca. And Sophie, veux-tu traduire en anglais?
Yeah, of course. So if anyone here listening is very interested by economic issues, social issues, and political issues, and they want to join the youth wing of the Social Economic Summit of Montreal, of Quebec, sorry. yes, please reach out to us on Instagram, on LinkedIn, on Facebook, and we have an email address, which is...
El Genis.
Check our Instagram.
we'll be sure to add this on ours as well, on our socials as well, here at CKUT and at Youthful Cities. And then once again, this is What's Up With Work Lately by Youthful Cities, where we discuss broken systems in the urban context for young people, and what we try to do with that is make cities better places for young people by talking to people like you. So thank you so much for joining us today. That's good. Thank you.
this poem was written right before the author's
to this flavor, flavor, Public Enemy, and you're listening to CKUT and the place to be from the bottom to the TOP.
This week on Wings, the topic is Rosa Luxemburg, one of the most influential political theorists of her day. She lived from 1871 until 1919, when she was assassinated by the newly elected socialist government of Germany. Luxemburg had written that socialism by gradual reform of the capitalist-oriented system would never provide for the needs of the workers, that only revolution could do the job. She was strongly in favor of the innovation of May 1st as International Labor Day. In many countries, it's still a national holiday, but it originated as a day for workers across the globe to stop work and show their collective power. Rosa Luxemburg's life was complicated, but one author boiled it down to a popular book, in fact, a graphic novel. Here are excerpts from an interview with the author of that book, Kate Evans, courtesy of Mitchell Cohen of Community Radio WBAI in New York City.
There's a river of birds in migration, a nation of women with wings.
Welcome to Wings, a series of news and current affairs programs by and about women around the world, produced and distributed by the Women's International News Gathering Service.
So who was Rosa Luxemburg?
Well, she was tiny. She's 101 years older than me, which means she was born in 1871. She's a Jewish-Polish woman. She's only about 4'9", as far as I can work out, and she has a terrible limp, sort of crippled hip. Her family are not poverty-stricken, but they're Jewish, and anti-Semitism's really bad in Tsarist Poland. She's a woman, you know, how is a woman meant to make it independent?